mon désir d'explorer et d'arriver à une réponse était beaucoup plus grand que la crainte que j'éprouvais ou l'inconfort que j'avais. Et c'est ce qui me permettait d'avancer et de tester ces idées qui pouvaient parfois être un peu folles et farfelues, mais je le faisais parce que le désir de voir plus loin était plus fort.
Bienvenue, vous entrez dans La Zone, le podcast qui part à la rencontre de femmes créatives et inspirantes. Une semaine sur deux, une artiste, une entrepreneuse, une actrice de changement se raconte. On parle de son parcours, de ce qui l'anime, de sa zone de génie. On parle de son rapport à elle-même, au monde et aux autres. Aujourd'hui à mon micro, Mona Lisa. Soror. En latin, soror veut dire sœur. C'est de là que vient le mot sororité. Dans ma bulle de réseaux sociaux, dans les milieux féministes, afro-féministes, progressistes, je le vois beaucoup, le lis constamment. Mais jusqu'ici, je ne pense pas que je l'avais entendu. Entendu dans le sens de comprendre.
Bonsoir à tous, merci d'être venus à la toute première édition de Soror.
Que vous évoque-t-il ce mot, soror? Pour moi, il convoque beaucoup d'émotions. Quand je pense à l'année qui vient de s'écouler, j'ai dû le prononcer des centaines de fois, certes, en préparant ce projet. Mais je l'ai aussi ressenti consciemment et véritablement pour la première fois. J'en ai saisi la chaleur lors d'une conversation à cœur ouvert avec une nouvelle amie. J'en ai ressenti un pincement au cœur lorsque j'ai dû apprendre à couper des liens de la manière la plus amère pour pouvoir me préserver. J'en ai ressenti la légèreté, à travers les rires et les blagues partagées lors d'un mini road trip avec des jeunes femmes que je ne connaissais qu'à peine. J'en ai ressenti l'empathie, l'écoute et la bienveillance, en me confiant à celles qui ne m'ont jamais jugée. J'en ai saisi l'amour, à travers toutes celles que je ne vois pas quotidiennement, mais auprès de qui je peux être moi. Et je l'ai ressenti plus que jamais en fin d'année, auprès de ma sœur, celle dont je partage les parents, les tics les plus étranges, une honnêteté crue et un humour qui ne parle pas le même langage que le reste du monde. Et puis il y a cet événement, Soror. Et son énergie, sa vibration particulière. Un safe space que l'on a bâti peu à peu, Sarah, Adeline et moi, à la force de nos petits bras, à coups de quelques prises de tête et d'une complicité naissante. Cet espace de partage d'idées, où des connexions se feront peut-être, par une phrase prononcée ou des paroles échangées. Cet espace où on a voulu conjuguer sororité et communauté. C'est tout ça que j'ai ressenti à quelques secondes de monter sur la scène de Los Gang Plaza le 2 octobre dernier. Ça et les degrés qui s'ajoutaient à la salle au fur et à mesure qu'elle se remplissait. Ça et une immense peur de me montrer si vulnérable. Ça et une demi-seconde d'hésitation.
Emmanuel Moussa, qui va venir avoir un panel avec nous sur oser investir en soi et sa créativité.
On y va. À mon tour de parler bien fort. À mon tour d'appeler à la sororité.
Est-ce que le micro fonctionne bien? C'est la première fois que je m'exprime.
Une seconde. Maintenant que j'y pense, alors que je m'apprête à diffuser cet épisode dans le podcast, cette conversation avec Mona Lisa, au milieu de vous toutes ou dans vos oreilles, c'est la somme de la première saison de La Zone. La somme de toutes les créatives et les entrepreneuses, les porteuses de projets et les rêveuses. Pour toutes celles qui se demandent comment oser se lancer, comment s'imposer dans un milieu où personne ne nous ressemble, comment rester soi lorsqu'on nous essentialise. comment servir le collectif sans toutefois s'y perdre. Je ne sais pas si on a apporté toutes les réponses ce soir-là, mais cette discussion, je vous la partage comme ma petite pierre à l'édifice, pour vous inciter à faire peut-être un pas de plus vers la création, vers quelque chose de différent et qui vous ressemble. Un autre maillon à la chaîne des petits déclics vers la réalisation de soi. Parce que c'est ça, c'est en fait, créer.
C'est une somme d'actions et de réactions à tout ce qui peut nous arriver dans la vie.
Créer, c'est s'exprimer face au monde. C'est s'incarner au sein d'une société. C'est investir en soi pour contribuer. C'est semer des graines. Et je suis honorée de pouvoir discuter de tout cela avec Mona Lisa Prosper.
Bonsoir.
Bonsoir.
Mona Lisa, d'être parmi nous ce soir.
Ben merci. Puis en fait, j'en profite pour vous dire un grand merci pour l'événement. Je pense que c'est tellement important, des événements comme ça, des espaces, oui, où on parle de ces choses si importantes et de se retrouver. Donc voilà, je vous dis juste un grand merci. Et moi, c'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui. Alors voilà.
Partagé. Mona Lisa, tu es avocate de formation. Tu as exercé le droit à ton compte avant de cofonder Propulsio 360. C'est un cabinet qui allie des conseils juridiques et des stratégies d'affaires pour un accompagnement complet des startups et des PME. Tu es présidente de la Chambre de commerce des femmes du Québec et membre de plusieurs conseils d'administration. Après 3 ans comme chargée de projet, puis directrice de projet à Montréal International, tu deviens la directrice du programme de démarrage d'entreprise pour les entrepreneurs noirs chez Futurepreneur. Alors, c'est un projet que tu as bâti de A à Z, et tu continues d'ailleurs à le bâtir un peu chaque jour avec ton équipe, et ça te mène à voyager partout au Canada, à la rencontre des communautés noires et afro-descendantes. Qu'est-ce que tu penses qu'elle t'aurait dit, la jeune Mona Lisa, celle de 14-15 ans, en te voyant dans tes fonctions cette semaine?
Très bonne question. Je pense qu'elle serait, elle serait très fière. Oui, elle serait très fière, très heureuse. Puis tu sais, en fait, moi, quand j'avais 14-15 ans, j'avais pas d'idée claire de ce que je voulais faire. J'avais beaucoup d'intérêts, j'en ai toujours, et je savais que dans la vie j'aurais différentes fonctions. À l'époque, je pensais vouloir aller en médecine, suivre les traces de mon père et tout. Mais dans tous les cas, à cet âge-là, me voir aujourd'hui, je pense que je serais très surprise, mais agréablement surprise et fière surtout.
Est-ce que tu te considérais comme une personne créative à l'époque?
Je pense que je me suis toujours considérée comme étant une personne créative, même si par moments, on a souvent tendance à associer la créativité à quelque chose de très... la créativité égale artistique, égale faire quelque chose de ses mains, peindre, peu importe. Mais la créativité, c'est tellement plus large. Alors, au fil du temps, c'est comme si je me suis toujours considérée créative, mais parfois, à cause de ces définitions différentes-là qui arrivaient, je me demandais si réellement je pouvais m'affirmer en tant que créative. Donc, c'était un peu ce questionnement que j'avais. Mais sinon, après, j'ai pu m'en défaire et dire « oui, je suis une personne créative » et la créativité, tout court pour moi, est très importante.
Alors, on a un parcours similaire, toi et moi, dans la mesure où on est toutes les deux devenues avocates, mais sans avoir un appel particulier pour le droit et sans vraiment savoir où est-ce qu'on allait aller. On en avait déjà discuté, toi et moi, tu te souviens de cette conversation?
Ah oui, j'allais y faire allusion parce que c'était juste avant que tu lances le podcast La Zone. Oui. Donc, ouais, c'est très beau de voir l'évolution des choses.
Et à quelques reprises, donc on s'en est parlé, et trouver sa passion, trouver en fait le moteur de quelque chose qu'on a envie de faire dans la vie, c'est pas évident, c'est pas linéaire, et c'est la raison pour laquelle justement j'étais entrée en contact avec toi à l'époque. Et avec du recul et de l'introspection, comment tu penses que Le fait de créer des idées, le fait d'avoir des initiatives, le fait de stimuler ta créativité et de l'utiliser, de l'exprimer, t'a aidé à naviguer à travers ces questionnements.
Oh mon Dieu, c'est la manière que j'ai, c'est ce qui m'a permis en fait de naviguer. Je pense quand on me pose des questions comme celle-ci, similaires à celle-ci, je dis toujours que quand on est perdu, on cherche des réponses. C'est pas en restant statique que on va trouver des réponses. Moi, je suis une personne très proactive. Je m'ennuie très rapidement. Ça peut être un défaut, mais de croire en ses idées, de les essayer, mais surtout de pas avoir peur d'échouer. Je dis échouer en guillemets parce que selon moi, les échecs c'est juste des apprentissages. Et avancer, moi, c'est ce qui m'a vraiment permis de me définir professionnellement et même personnellement au fil du temps, mais aussi d'accepter que je pense que je serai toujours en constante réinvention un peu. Et que voilà, c'est la personne que je suis, c'est comme ça que je fonctionne, mais je suis vraiment arrivée à cette conclusion-là en me laissant la chance et l'espace de créer, d'essayer des choses différentes, même si ça sortait du cadre dans lequel je devais rentrer habituellement. Mm.
Comment est-ce que elles deviennent les idées et surtout, tu sais, c'est facile de dire oui, il faut stimuler sa créativité, oui, il faut créer des projets, des initiatives, mais parfois, souvent, en fait, on a un certain inconfort à le faire, on s'autorise pas à le faire et les outils qui peuvent nous permettre, par exemple, moi, de faire ce podcast, toi, de créer Propulsio 360 à une époque où tu étais encore très jeune dans ta carrière, en fait. C'est pas évident. Qu'est-ce qui t'a permis de débloquer et d'enclencher, en fait, ton processus de création?
Honnêtement, il n'y a pas de formule magique. J'ai toujours des moments où, et puis même à toutes ces étapes-là, des craintes, il y a des freins, on a peur, mais je pense que j'ai toujours cette envie de foncer malgré tout parce que on sera jamais confortable à 100%. Et souvent, lorsqu'on est très confortable, mais c'est peut-être le temps de se challenger un peu à défaut d'avoir un meilleur terme. Donc vraiment, j'ai pas de formule magique. Ce que j'ai fait, c'est que mon désir d'explorer et d'arriver à une réponse était beaucoup plus grand que la crainte que j'éprouvais ou l'inconfort que j'avais. Et c'est ce qui me permettait d'avancer et de tester ces idées qui pouvaient parfois être un peu folles et farfelues, mais je le faisais parce que j'avais, voilà, le désir de voir plus loin était plus fort.
Peut-être aussi que le fait d'avoir confiance plus en ses idées qu'en soi, c'est peut-être quelque chose qui t'a aidé, qui t'a drivé.
Une belle manière de le voir, oui. Bien d'accord avec ça.
Alors, l'inconfort, il peut venir, oui, de nos propres croyances limitantes, mais il peut aussi venir du plafond de verre auquel on est confronté en tant que femme issue de la diversité, en fait, en tant que femme non blanche. Et Sarah en a beaucoup parlé avec Audrey et Jamila dans le panel d'avant. Et beaucoup vont argumenter que aujourd'hui, au contraire, les femmes non blanches ont plus de chances de percer parce que on est beaucoup dans la diversité et l'inclusion. Les entreprises vont pousser ces idées-là. Mais moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez peut-être pas sincère. Peut-être qu'ils surfent en fait sur une certaine mode en fait politique. Peut-être qu'il y a des intérêts aussi politiques qui rentrent là-dedans. Et toi, étant donné que tu sièges sur plusieurs conseils d'administration, que tu as aussi affirmé que aujourd'hui les femmes noires sont leaders en entrepreneuriat, comment est-ce que tu as imposé tes idées, imposé des projets, et ce, sans compromettre ta personne, sans compromettre tes valeurs, et d'arriver dans un milieu où on ne t'attendait pas?
Ah, grosse question.
Ouais.
J'ai envie de vous donner l'exemple en fait du poste que j'occupe aujourd'hui, directrice du programme de démarrage pour entrepreneurs noirs de chez Futurpreneur, un poste que j'occupe depuis un an et demi maintenant. Puis en fait, je n'ai pas créé le programme, mais je suis arrivée en poste où le programme avait été créé. C'est comme si on me donne le bébé, maintenant élève le bébé, fais-le grandir, et voilà. Futurpreneur, pour ceux qui connaissent l'organisation, c'est une organisation qui existe depuis plus de 25 ans, financement, mentorat aux jeunes entrepreneurs. Bon, je ne ferai pas de pitch de vente, mais ça pour dire que quand j'ai vu l'affichage du poste, la directrice d'un programme de démarrage pour entrepreneurs noirs, j'ai eu tout de suite un gros point d'interrogation. Parce que je me suis dit, ça m'intéresse, mais attends, pourquoi? Quelles sont les motivations derrière ce programme? Quelles sont les différences de ce programme avec les autres? Comment est-ce qu'ils vont réellement adresser les autres? Tu sais, c'est vraiment ces questions-là. Et pourquoi je vous montre cet exemple, c'est que tu parles de ne pas compromettre qui on est, d'être lié aux valeurs, et de beaucoup de personnes ou d'organisations vont poser des actions parce que c'est dans l'air du temps et parce qu'il faut le faire. Moi, c'est tout de suite mon schéma de pensée, c'était ça. Et c'était important pour moi en prenant part au processus d'avoir réponse à ces questions-là, et j'ai pas eu peur de les poser. Peut-être que plus jeune, j'aurais eu un peu plus peur de poser ces questions-là qui peuvent parfois être inconfortables, mais en même temps, je me disais, si vous prenez la décision de lancer un tel programme et que vous êtes inconfortable à avoir ces questions-là, mais déjà là, je sais que c'est pas une place pour moi. Évidemment, ça a été tout le contraire parce que j'occupe le poste aujourd'hui, mais tout ça pour dire que il faut, ce que j'essaie de faire, je dis pas que c'est facile, ça semble être très facile, mais c'est de toujours tout simplement rester, ben pas tout simplement, mais le plus possible, rester fidèle à moi-même ne pas avoir peur de vraiment aller au-delà des choses et questionner. Et j'aimerais aussi peut-être, un peu à l'opposé de ce que je dis, on est dans une période où on parle énormément de diversité, équité et inclusion. On sait tous qu'il y a des organisations qui le font bien, d'autres moins bien. Mais je pense quand même que c'est important quand même de voir que enfin, ça fait longtemps qu'on parle de l'importance de ces enjeux-là. Et pour une fois, on dirait que là, les gens nous écoutent d'une manière différente. Donc, j'encourage tout le monde à vraiment encore plus prendre sa place et de pas trop se freiner à il faut se poser les bonnes questions, mais là, on nous écoute. C'est le temps de prendre notre place encore plus. Pas que c'est seulement maintenant qu'on devait avoir notre place. Dieu seul sait que non. Mais il faut pas avoir peur de prendre sa place, et de s'affirmer, en fait.
Est-ce que tu as un exemple concret à nous donner? Ben, deux fois où tu as pris ta place puis tu t'es imposé.
Tu me parles de, par exemple, des conseils d'administration. Ouais. Moi, j'ai eu la chance de faire partie d'initiatives qui s'appellent le groupe des 30 de concertation Montréal, qui vise à mettre de l'avant la gouvernance inclusive. Donc, plus de représentation des différentes diversités sur les conseils d'administration. Et il y a toujours cette notion de, est-ce que les fameux quotas ou d'avoir des places, des sièges réservés sur les CA, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Et moi, j'ai toujours respecté les opinions opposées, mais moi, personnellement, je pense que c'est une bonne chose. Et quand on en discutait ensemble avec les autres professionnels en groupe des 30, on parlait de cet enjeu-là, c'est toujours une question de la compétence égale. On veut donner une place à une personne issue de la diversité, à une personne autochtone ou autre. Et c'est dans ce sens-là que je dis qu'il faut prendre sa place et pas se dire que, ah, c'est juste parce que c'est un siège réservé. La question est beaucoup plus profonde que ça, en fait. Donc, voilà, moi, c'est ce qui me vient en tête quand tu me dis ça. Et donc, je me suis jamais empêchée ou ça m'a jamais freinée de voir cet élément-là. C'était plus de, j'ai les compétences, j'ai ma place et je vais la prendre. Et je vais même faire changer possiblement d'opinion les gens qui peuvent peut-être croire que j'ai ma place là simplement parce que y a un quota qu'il fallait remplir. Je vais leur faire comprendre que oui, c'est possible d'être issu de la diversité et d'être compétent, parce que vraiment, si tu penses encore comme ça aujourd'hui, il y a un problème. Si tu penses à l'inverse aujourd'hui, il y a un problème.
Alors, je vais me faire l'avocate du diable.
Ah, ok, vas-y.
Dans le premier épisode du podcast, j'avais reçu Déborah Cherenfant. Est-ce que vous la connaissez? Vous en avez entendu parler? Déborah Cherenfant, qui est donc directrice régionale du programme de femmes entrepreneurs de la Banque TD. Et à l'époque, je lui avais demandé, oui, ok, il y a un programme pour les femmes, mais pareil, j'avais un peu cet inconfort à me demander si c'était vraiment sincère et si concrètement on pouvait vraiment inclure les femmes dans le monde des affaires, dans le milieu économique, de sorte qu'elles aient des postes qui soient importants. J'ai envie de les voir à des postes décisionnels. J'ai pas envie de les voir à l'accueil d'une banque, par exemple. Mmh. Ouais. juste pour montrer qu'il y a une vitrine et qu'elles sont là et que du coup, c'est bon, le quota est respecté. Et en fait, la réflexion que j'avais avec Déborah, c'est le fait que lorsqu'on a un projet, qu'on a la confiance pour le mettre en œuvre, que les idées nous viennent tellement que c'est bon, le plan d'affaires, il est construit, demain, je vais à la banque, je vais voir des investisseurs et je le pitch. Si les investisseurs ne nous ressemblent pas, tu vois, comment faire? Parce que, en fait, comment on pourrait nous-mêmes, dans nos communautés, bâtir une richesse de sorte que c'est nous qui sommes la source du financement d'autres projets. Jamila, elle parlait justement de la porte qu'il fallait laisser ouverte. Ben, comment est-ce que nous, en tant que femmes noires, en tant que femmes non blanches, en tant que femmes, bref, issues de la diversité culturelle, j'aime pas trop ce terme parce que les personnes blanches aussi sont issues de la diversité culturelle, mais bref. Donc, pour finir ma question, parce que je sais que je fais des questions à rallonge, ce n'est pas mon TED Talk, donc je vais juste poser ma question. Comment est-ce qu'on bâtit la richesse? Comment est-ce qu'on peut convaincre des investisseurs qui ne nous ressemblent pas de nous laisser entrer, puis d'avoir les clés du château après?
C'est l'addition de plusieurs choses, je crois. Et je trouve qu'on vit dans une période particulièrement intéressante en ce moment à ce niveau-là. Je pense que d'une part, il y a... Tu as ressorti quelque chose que j'ai dit, je ne sais plus trop quand, mais que je prône encore par rapport à l'entrepreneuriat auprès des femmes noires. Vous devez probablement le savoir, les femmes noires, quand on regarde les pourcentages de femmes ou même de personnes qui se lancent en entrepreneuriat, on retrouve beaucoup plus de femmes noires que d'autres femmes et même que d'hommes quand on regarde aux États-Unis et même ici. Juste dans notre programme à nous, 49% des entreprises lancées sont à propriété féminine. Donc, il y a énormément d'engouement et je pense que ça surprend personne ici. Moi, ça m'a pas surpris du tout. J'en étais même très fière, mais c'est juste que maintenant, on a des données pour le quantifier. Je pense que ça va passer. Tu me demandes comment est-ce qu'on va créer la richesse. Le revers de la médaille avec le fait que autant de, si je me fie spécifiquement aux femmes noires qui sont en grande majorité à lancer beaucoup plus d'entreprises, c'est malheureusement aussi celles qui s'autofinancent le plus et qui ont beaucoup plus de mal à générer de la richesse au sein même de leur entreprise. Et donc là, il y a un problème auquel enfin on s'attaque aujourd'hui. La notion de d'éducation, d'accéder à des ressources, d'avoir encore plus de modèles, l'impression de la représentation. Je dirais des événements comme vous le faites aujourd'hui font partie de la solution à ce qu'on puisse créer de la richesse en cours de route parce que il y a de la représentation. Vous mettez de l'avant des femmes entrepreneurs qui évoluent, qui avancent. D'autres femmes ici vont acheter de ces produits-là. Le dollar va circuler au sein même des communautés. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments. Maintenant, pour la question de, bon, les gros et grands investisseurs, c'est encore les grandes institutions bancaires, encore très, très blanches, énormément de travail à faire là-dessus. Mais après, on a des fonds comme BKR Capital, pour celles qui connaissent. Lise Birikundavi est une femme extraordinaire. Premier fonds, donc BKR Capital est le premier fonds d'investissement en capital de risque, au Canada, axé sur les communautés noires, qui a été cofondée par une femme noire et un homme noir basé à Toronto. Elle est basée ici. C'est des initiatives comme celle-ci qui vont... Fait que c'est à plusieurs niveaux, en fait, qu'on va créer, générer de la richesse. Il faut changer les mentalités. Mais on est toutes ici ce soir, donc je pense que... Donc on a déjà ce même esprit. Il faut se supporter et investir dans nos communautés aussi pour y arriver.
Alors, je vais tout devoir faire le line-up au pop-up store après ça. Par ton travail et surtout par ta voix aussi que tu as dans les médias, on te présente comme directrice du programme de démarrage pour entrepreneurs noirs. C'est aussi comme ça que j'ai commencé par te présenter. On te sollicite pour ton expertise dans le milieu des affaires, mais aussi pour ton militantisme et ce que tu apportes aux communautés noires. Étant donné que créer un projet, une initiative, c'est d'abord quelque chose d'extrêmement personnel. C'est quelque chose qui commence par soi, c'est quelque chose d'intime, que ce soit artistique ou lancer une entreprise. Je me demandais si tu ressentais comme un poids, une sorte de responsabilité de représenter toute la communauté noire.
Je pense que c'est inévitable. Et je m'explique ici, on est encore dans une société où il manque énormément de représentation. Et donc, dès qu'il va y avoir un exemple, quelqu'un de représentation, que ce soit une femme noire, une personne autochtone ou une personne LGBTQ, peu importe, veut pas, il y a un regard qui va être porté vers cette personne et une généralisation va être faite. Ça, c'est la réalité. Maintenant, pour être très honnête, c'est quelque chose auquel je ne réfléchis pas nécessairement, dans la mesure où ce que j'aime faire dans la vie, que ce soit là aujourd'hui ou dans mon travail de tous les jours, toutes les implications que je le fais parce que j'aime avoir un impact petit ou grand, peu importe, sur la société. Et donc, c'est vraiment surtout à ce niveau que je m'accroche. Je me dis, bon, ben, je suis là, tant mieux si ça peut en inspirer d'autres. J'espère d'ailleurs en inspirer d'autres, mais je ne veux pas cette idée de porter le poids d'eux. C'est pas ce qui m'habite comme tel. Mais j'en ai conscience. Je sais comment les gens vont penser. Tout comme je sais aussi que, en me voyant, des personnes vont tout de suite avoir des préjugés. Je suis une jeune femme noire. Je veux dire, ça existe encore. Mais c'est des choses que je dis toujours qu'il faut avoir conscience de ces éléments-là, mais il faut jamais que ça nous freine. Et voilà. Donc,
Est-ce que c'est quelque chose qui est-ce que tu penses, puis là, je vais peut-être rentrer dans les questions de thérapie, mais est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va biaiser ta créativité? Moi, c'est quelque chose que je me suis longtemps posé comme question. Ne serait-ce que la zone podcast, pendant un temps, je me suis demandé, est-ce que je devrais viser que des femmes noires ou est-ce que je devrais pouvoir parler à toutes les femmes? Mais c'est parce que je m'identifie d'abord comme femme noire et que je me vois comme femme noire et ayant un média, je me dis qu'il faut que je parle à des femmes qui me ressemblent, à des femmes noires également. Donc ma créativité est biaisée dans le sens où je vais m'adresser à une certaine communauté, là où je pourrais l'ouvrir à toutes, par exemple.
C'est intéressant comme point de vue. Je l'avais jamais vraiment vu comme étant un frein à la créativité, mais c'est vrai que d'une certaine manière, tout positionnement, tout ce qu'on décide de faire a toujours une portée plus large et plus grande. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que tu l'as mentionné, tu as cette réflexion, mais ensuite tu prends ta décision basée sur ce que toi tu as envie de faire, de véhiculer et de partager. Fait que dans mon cas à moi, parce que voilà, tu m'adresses ça personnellement, je pense que je ne l'ai jamais vraiment senti comme un frein à ma Ben oui, non. En fait, c'est un frein à la créativité, mais je n'ai pas mis complètement à l'arrêt. Voilà. C'est plus, on a continué à accélérer un peu. Puis je pense que c'est un parallèle. Toi et moi, on va se comprendre. On a toutes les deux étudié en droit. On est toutes les deux avocates. Et on a toutes les deux des intérêts vraiment complètement à l'extérieur de ce que, normalement, une avocate, un avocat doit faire. Et il y a cette notion-là aussi. Je suis certaine que ça t'est arrivé de se dire, bon, mais j'ai étudié en droit, je suis supposée être avocate, mais il y a tel domaine, comment est-ce qu'on conjugue les deux? Et là, tu viens être freinée par rapport à ce que tu peux ou ne peux pas faire, ta créativité et tout. Mais c'est très, très, très inconfortable. Fait que, voilà, j'ai dit tout et son contraire. Donc, il y a des freins, mais on a accéléré aussi. Voilà.
Est-ce que tu arrives malgré tout à te penser en dehors du collectif? Tu vois, à te définir autrement, à reconnecter avec ta propre individualité?
Tu poses des grosses questions, Emmanuel, ce soir.
En fait, je vous pose la question à toutes. On réfléchit ce soir. C'est une thérapie collective.
Tu sais, c'est intéressant parce que j'ai envie de dire que c'est un peu la communauté puis la collectivité qui me donne la force d'être qui je suis. Et donc, oui, c'est sûr que je me vois, moi, ma personne, je ne représente pas du tout le monde, mais reste que je suis constamment inspirée, énergisée par mon entourage, par les gens auxquels je m'identifie, par le tout. Donc, j'ai envie de te dire, dans mon cas, c'est assez entremêlé.
Quand j'ai pensé à investir en soi et à sa créativité, ça s'accompagnait d'un, d'un certain investissement émotionnel. D'ailleurs, on appelle souvent, on a tendance à appeler son entreprise ou même un programme ou un projet son bébé. Est-ce que vous avez déjà utilisé cette expression-là, c'est mon bébé? Oui, je vois une main se lever ici, clairement, moi aussi. Et je me souviens que j'avais parlé avec Jamila dans le podcast et elle me disait que elle n'utilisait pas ce terme de bébé parce que non seulement elle voulait que ce soit quelque chose de détaché d'elle et de plus grand qu'elle, que quelque chose que d'autres personnes ensuite pourraient reprendre. Là, je parle de Sayaspora, mais aussi pour avoir un certain recul émotionnel sur ses idées, sur son projet. Est-ce qu'il y a des moments où l'investissement émotionnel était trop? Et comment est-ce que tu as fait pour le rééquilibrer, en fait?
Je trouve ça super intéressant, la notion d'avoir fait le choix de pas appeler l'entreprise son bébé. Je trouve que c'est... Non, je trouve ça intéressant et ça me fait réfléchir, en fait, à... Moi, l'exemple que j'ai, c'est j'ai cofondé, comme tu l'expliquais au début, un bureau d'avocat avec une bonne amie à moi. Et oui, je considère, elle et moi considérions cette entreprise comme notre bébé. Pendant 3 ans avec elle, j'ai et d'autres associés parfois, on a géré l'entreprise, on a bâti une équipe, on a développé des ateliers, on avait une équipe et tout. Et il est venu un moment où justement, je ne me sentais plus liée à mon bébé, en fait. Et ça m'a pris 1 an me rendre à l'évidence que c'était parce que je ne m'identifiais plus à ce bébé auquel j'avais donné naissance avec cette amie. Et il était venu le temps pour moi de justement me reconnecter avec moi-même et de trouver mon identité en dehors de cette entité que j'avais co-créée. Mais c'était, tu parles de charge émotionnelle, c'était extrêmement inconfortable, extrêmement difficile, parce que à la fois c'était le moment pour moi de me redéfinir, de reconnecter avec ce que je veux, mais aussi de faire le saut dans le vide complètement. Voilà, ça c'est vraiment ça a été un point très 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 important et difficile dans ma vie. En fait, en bout de ligne, tout va bien, tout est bien maintenant. Mais ouais, c'est le moment durant lequel je dirais que j'ai le plus grandi, évolué aussi, être en mesure de faire ce détachement.
Pourquoi est-ce qu'on quitterait quelque chose qu'on a créé?
Ben c'est ça, parce qu'on ne s'y identifie plus, tout simplement. Tu sais, quand on crée quelque chose, on est passionné, hein. Quand on pense à l'entrepreneuriat ou peu importe le projet, ça nous consume. Même toi, tu me disais, tu t'es couché à 4h du matin hier pour ce...
Non, fallait pas le dire.
Non, mais on sait, puis c'est ça, en fait, c'est que ça nous consume. On est passionné. On veut que ça évolue. Mais il vient un temps où cette flamme, parfois, pas tout le temps, mais parfois s'éteint. Et il faut accepter. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à l'accepter, mais je pense qu'il faut l'accepter, être en mesure de se rendre à l'évidence. Parce que quand vient ce moment, ça veut tout simplement dire que c'est le moment pour nous d'évoluer d'une autre manière et de voir un peu ce qui peut arriver, ce qui va être génial aussi par la suite.
En fait, tu parles d'une relation de couple.
Aussi.
Mais en fait, tu parles du lâcher prise, quoi. Et en fait, on en revient à ce que je disais au début. La somme d'actions et de réactions, c'est aussi de pouvoir lâcher quelque chose pour aller vers autre chose. Et c'est ça, être créatif. Au début de notre conversation, on parlait de trouver sa voie, que c'était pas linéaire. Eh ben, j'ai trouvé une vidéo. En fait, c'est un TED Talk d'un conférencier qui s'appelle Adam Leipzig. Et lui, il explique qu'on peut trouver sa voie en 5 minutes. Donc en fait, la créativité va hyper rapidement en se posant 5 questions. Et peut-être qu'à l'époque, ça nous aurait été utile. Peut-être que vous aussi. Les 5 questions, c'est qui es-tu? Qu'est-ce que tu adores faire ou qu'est-ce que tu penses avec certitude et aisance pouvoir enseigner aux autres? Pour qui le fais-tu? De quoi ces personnes ont besoin? Et comment ces personnes vont changer ou être transformées après tes enseignements ou cette chose que tu adores faire? Alors, je vous invite à vous poser ces questions-là, à faire cet exercice. Il paraît que ça dure que 5 minutes.
C'est ça que j'allais te dire, ça, c'est 5 minutes?
C'est 5 minutes.
Répondre à tout ça en 5 minutes?
C'est 5 minutes.
Ok.
Est-ce que tu penses que tu serais capable de répondre à ces questions-là et de me faire une phrase là en fait 30 secondes parce qu'on n'a plus le temps et que les bananes plantains vont refroidir?
Ok, je n'ai pas le choix. Vas-y, les
questions. Qui es-tu? En fait, tu as juste à dire ton nom. Qui es-tu?
Mona Lisa Prosper.
Qu'est-ce que tu adores faire?
C'est un...
Oui, je sais. J'adore parler.
T'adores parler? Pour qui tu parles? Pour qui le fais-tu?
Je le fais pour inspirer les générations futures, voilà.
Mais de quoi les générations futures ont-elles besoin?
De représentation.
Et comment elles vont changer ou être transformées par le fait que tu parles aux générations futures?
Bon, alors peut-être pas moi toute seule, hein, certainement pas, mais plus elles ne verront plus de barrières, elles ne se sentiront plus limitées à cause de ce à quoi elles ressemblent. Et là, je dépasse le temps. Vas-y.
Donc, tu t'appelles Mona Lisa Prosper. Tu adores parler, tu le fais pour les générations futures qui ont besoin de représentation. Et grâce à ça, elles n'auront plus aucune barrière.
5 minutes. C'est pas pire quand même.
Pas mal.
J'ai chaud.
Alors, on n'a plus beaucoup de temps et je pense qu'on a tout envie de manger, de discuter et de faire ce petit exercice des 5 minutes. Je vais passer à la question signature du podcast. Le podcast s'appelle La Zone, en référence à la sortie de sa zone de confort et à l'entrée dans sa zone de génie. C'est un espace où notre talent, notre vocation et nos passions sont complètement alignés. Qu'est-ce que tu as laissé, toi, dans ta zone de confort? Et qu'as-tu trouvé dans ta zone de génie, Mona Lisa?
Alors, dans ma zone de confort, j'ai laissé le besoin et le désir de me conformer aux standards que d'autres ont ou peuvent avoir pour moi. Et dans ma zone de génie, j'ai trouvé l'épanouissement.
Merci beaucoup, Mona Lisa.
Ça a été plus rapide pour ça.
Ça a été plus rapide, ouais.
Merci au public de Soror, merci à vous toutes. Merci beaucoup, Mona.
Merci.
Merci à Mona Lisa Prosper d'avoir partagé ce moment avec moi. Merci à vous pour votre écoute. Si vous avez aimé notre conversation, partagez le podcast autour de vous. Des discussions inédites avec des femmes brillantes reviennent dès le mois prochain. En attendant, vous pouvez suivre mes projets, mes réflexions et mes péripéties en lien avec la créativité chaque mois dans la newsletter de La Zone. Un journal de bord, une page à la fois, adressé directement à vous. Le lien est en description. Prenez soin de vous et à bientôt pour un prochain épisode.